RCF. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Paroles Protestantes. Comme chaque premier dimanche du mois, nous parlons de la prière selon la demande des disciples à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous vous proposons aujourd'hui de nous pencher sur une parabole de Jésus, dite de la prière du pharisien et du publicain. Nous verrons ensemble le contexte de cette parabole, l'attitude des trois personnages concernés, ce que nous pouvons en retirer pour notre quotidien.
Paroles Protestantes sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Vous êtes tous trois très actifs à l'église baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, qui nous lit cette parabole?
Alors, je vais vous la lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en son lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. »
Pourriez-vous nous parler des protagonistes de cette parabole? On commence par le pharisien. D'ailleurs, qui sont les pharisiens?
La mouvance des pharisiens est apparue au IIe siècle avant Jésus. Étymologiquement, ce nom signifie « séparer et expliquer », la notion de séparation étant la plus importante. Ils se séparent du reste des Juifs par une observation stricte de la loi de Moïse, appelée la Torah. Elle rassemble la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. On dit qu'ils étaient des hommes pieux. Ils se caractérisaient par une discipline et une observance rigoureuse de la loi orale. Ils enseignaient des doctrines donc qu'on ne trouve pas dans la Torah. Ils avaient un zèle vraiment très prononcé et ils étaient passés maîtres de l'enseignement. On voit dans les évangiles que les Juifs les craignaient et ils étaient très considérés et usaient d'ailleurs de leur grande influence.
Merci Bernard. Et sur le plan doctrinal, Jean-Didier?
Eh bien, sur le plan doctrinal, les pharisiens croyaient aux anges et aux démons. Ils partageaient l'espérance de la résurrection et ils attendaient le proche avènement du royaume de Dieu. Ce qui les mettait en conflit avec un autre groupe appelé les Sadducéens. On y reviendra peut-être, mais les pharisiens et les Sadducéens étaient souvent en conflit avec Jésus. Ils essayaient souvent de le piéger, de le prendre en défaut. Ils étaient influents dans le Sanhédrin, c'est la haute instance judiciaire juive. Et cela dit, Nicodème et Joseph d'Arimathée en étaient. Ce dernier a demandé le corps de Jésus pour le mettre dans sa tombe personnelle. Saul de Tarse aussi, qui deviendra l'apôtre Paul, dit avoir été l'un des leurs, instruit par un grand sage du nom de Gamaliel.
Et le publicain, d'ailleurs il se traduit différemment celui-ci, non?
Oui, ça diverge selon les traductions, c'est une même fonction. Péager, publicain, collecteur ou employé des impôts. Ces gens étaient d'une classe détestée par les Juifs, mais finalement par tout le monde, à cause de leur manière de faire leur travail et leur rudesse. Ils étaient souvent riches, entre autres du fait qu'ils demandaient plus de taxes pour s'en mettre plein les poches. Des voleurs patentés, une mafia en quelque sorte. Dans Luc 19 d'ailleurs, on lit l'histoire de Zachée. Il est dit de lui qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Leur impopularité est générale, non seulement parce que la fonction est universellement mal vue du public, mais également parce qu'ils sont perçus comme des collabos des Romains, agents des occupants païens. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Dans Luc 5, Jésus appelle un collecteur d'impôts du nom de Lévi, à qui il dit « Suis-moi ». et son nom est changé en celui de Matthieu, il est l'auteur du premier évangile.
Oui, il ne faudrait pas oublier non plus que Dieu est présent, lui aussi, dans cette parabole, en tant que juge, et que Jésus lui-même tient un rôle important, puisque c'est lui qui est l'auteur de cette parabole. J'ajoute que trop souvent nous passons sous silence une autre réalité qui me semble importante, c'est que cette parabole est pour nous aujourd'hui, et pas seulement pour ses contemporains.
Vous avez raison, Bernard. Dites-moi, Luc rapporte que Jésus dit cette parabole dans une intention précise, non ?
Oui, la première chose qui ressort, c'est qu'elle est à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et qui méprisaient les autres, d'ailleurs.
Ah bon, il y aurait des gens comme ça ?
Ah bah oui, malheureusement, oui. Aujourd'hui encore, il y en a qui se croient justes presque sans péché, ou en tout cas qui se comparent à d'autres et qui se trouvent bien meilleurs. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on se compare aussi, trop souvent, aux autres ? Je ne veux pas faire de la psycho de comptoir ici, mais souvent, ceux qui ont un complexe d'infériorité, voire de supériorité aussi, dénigrent et critiquent les autres, au moins pour affirmer « je suis meilleur ». Bon, c'est souvent qu'ils ont besoin d'être valorisés, au moins à leurs propres yeux déjà.
Pour aller dans le même sens, sur la recherche de la comparaison, j'ai accompagné des personnes qui n'avaient plus de personnalité tant elles étaient obsédées par le fait d'être acceptées par tous. Elles adoptent la même manière de penser, de faire, de parler, de s'habiller même parfois. Un jour, elles copient tel mode de pensée, le lendemain un autre, telle une girouette. Il en arrive qu'elles n'ont plus de personnalité propre et elles ne savent plus elles-mêmes qui elles sont. On voit ça à l'adolescence, mais pas que. Ah, il faut les aider pour que elles... parce qu'elles sont mal dans leur peau et elles ont besoin de retrouver une osmose avec elles-mêmes.
Nous n'avons pas encore évoqué le fait de vouloir paraître bien et juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est une idée folle. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, ils se sont tous égarés, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. » Le verdict est sans appel, pas une personne n'est juste ou peut se déclarer juste aux yeux des hommes, encore moins aux yeux de Dieu. Ni vous, ni moi. Et ce n'est pas une pratique religieuse, même rigoureuse, qui change cette vérité. Ce qu'essayaient de faire les pharisiens, d'ailleurs. Et Jésus leur dit d'emblée, ce n'est même pas la peine d'y penser, vous ne pourrez jamais être trouvé juste par la pratique. Si on regarde cette parabole de près, c'est drôle de remarquer que le pharisien se trouvait tellement mieux que le collecteur d'impôts. Ce qui veut dire qu'il pêche déjà par orgueil et condescendance. Je trouve très pertinent ce verset du Proverbe 29. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.
Merci Daniel. Avant de revenir à notre parabole, prenons le temps d'une pause en écoutant « Je m'abandonne » du groupe Hillsong.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne.
Suite de notre émission consacrée à la parabole dite du pharisien et du publicain. Avant la pause, nous nous sommes arrêtés sur le pharisien. Peut-on parler un peu de ce publicain ? Dites-moi, les fonctionnaires aux impôts ne doivent pas se sentir très à l'aise là.
Heureusement pour eux et pour nous, leur profession n'a rien de comparable aujourd'hui. Nos impôts étant prélevés directement, les fonctionnaires ne peuvent donc pas en mettre une partie sur leur compte. Ils ne sont pas non plus à la solde d'un envahisseur étranger. Et on ne parle donc plus du tout du même métier qu'à l'époque de Jésus.
Mais à qui il est comparé alors aujourd'hui ?
Si on parle de personnes considérées comme ayant une mauvaise conduite, on remplacera le terme de collecteur d'impôts par, je sais pas moi, dans la pensée collective, à des personnes peu fréquentables, des voleurs, à des gens de la mafia. Mais pour certaines personnes, ça peut être celles qui pratiquent une autre religion, ou l'athée même. En fait, c'est tous ceux qui n'entrent pas dans les critères de sainteté décrétés, établis par des religieux ou par nous-mêmes. Ce sont les lépreux d'aujourd'hui, ceux qui sont regardés comme pestiférés, nuisibles à la société, j'ai envie de dire. Je parle bien sûr de la pensée collective, pas de la mienne, on se trompe pas.
Mais Dieu, lui, les aime aussi, ces personnes-là, non ?
Ah oui, d'ailleurs, un des messages de cette parabole, c'est un des messages de la parabole. Ça me fait penser spontanément à ce que le Seigneur apprend à l'apôtre Pierre lorsqu'il est à Jaffa et qu'en extase, il voit sur une nappe des aliments dits impurs. Le Seigneur lui dit « Tu et mange, Pierre ». Mais lui se refuse. « Ah non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Et la réponse du Seigneur est forte. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Le Seigneur était en train de le préparer à ne regarder aucun homme comme impur. Et donc, dans le récit d'Actes chapitre 10, il s'agit là d'un païen, de plus un envahisseur romain, qui fait venir Pierre chez lui suite à une visitation d'un ange. Dieu ne considérait pas ce Romain comme impur, alors que Pierre, si... D'ailleurs, selon la loi juive, il était même interdit à Pierre de rentrer chez lui. Finalement, l'Esprit Saint est descendu sur les païens et Pierre en était tout stupéfait. Je pense à un autre verset qui se trouve dans le Premier Testament. Le Seigneur est obligé de dire au prophète Samuel, qui doit oindre le futur roi David, « Ne juge pas comme les êtres humains. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. » Les gens font attention à ceux qui leur sautent aux yeux, mais le Seigneur regarde le fond du cœur. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit au prêtre venu le questionner, « Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume. »
D'accord Bernard, mais qu'est-ce qui fait que Dieu prenne plus attention aux pécheurs qu'aux religieux ?
Alors on voit bien dans cette parabole que le Seigneur n'est pas intéressé par ceux qui se croient justes. On le disait, le pharisien, homme religieux, se vante de sa spiritualité. L'évangéliste Marc rapporte cette parole de Jésus : « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs.
Pourquoi Jésus insiste-t-il sur la pratique religieuse du pharisien en lui faisant parler du jeûne et de la dîme ?
Encore une fois, comme le dit Jésus, les pharisiens pratiquaient le jeûne deux fois par semaine. C'est un exercice qui n'est pas simple. C'est une contrition du cœur, du corps qui est ainsi domptée. De même, la dîme, ça représente 10% des revenus, ce qui est assez conséquent. Alors, c'est pas que ce soit mauvais en soi de faire ces choses. Ce qui l'est, c'est de se croire mieux que ceux qui ne le font pas.
C'est comme si, si vous me permettez, comme si aujourd'hui nous voulions gagner notre salut par nos bonnes actions, qu'elles soient sociales ou religieuses d'ailleurs, ce qui est à l'antipode du plan de Dieu. D'ailleurs, Paul dit « Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. »
Ce qu'on dit me fait penser à une de mes patronnes qui, rentrant d'une messe de Pâques, disait « J'ai fait mon devoir ». J'ai toujours été offusqué par ce type de paroles. Le Seigneur attend-il vraiment que de nous, que nous accomplissions des devoirs à son égard ? Ben non. Le Père Céleste recherche l'amour, la complicité, le partenariat avec nous, mais pas le devoir religieux. Il le fait savoir d'ailleurs au peuple d'Israël par le prophète Amos. Et c'est Dieu qui parle, hein. « Je déteste vos fêtes religieuses. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus supporter vos rassemblements. Et quand vous faites vos rituels au temple, ben je ne les agris pas. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne peux plus les entendre. » Ah, cette parole est dure. Dieu n'apprécie pas la pratique religieuse si c'est juste une question de devoir, y compris aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller dans une église à Noël ou à Pâques si c'est juste par formalisme et croire qu'ainsi Dieu va nous agréer et répondre à nos prières.
Oui, c'est pas pour minimiser les propos de Bernard, mais ce cri du Seigneur, c'est non pour nous condamner ou nous culpabiliser, mais c'est pour nous secouer, pour nous interpeller, de façon à ce que nous prenions conscience que notre Seigneur tient aux échanges relationnels. Regardez comment ça se passe dans les relations d'amour dans une famille. Les échanges sympas autour de la table, les projets communs. C'est ce type de relation que le Seigneur souhaite avec nous.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission consacrée à la parabole dite du pharisien et du publicain, que vous inspire la prière du collecteur d'impôts ?
Alors, à remarquer d'abord qu'elle est très courte par rapport à celle du pharisien. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Il n'est donc pas utile de faire de longues prières, mais de vraies prières sincères. Le collecteur d'impôts, rejeté par les hommes, a aussi crainte d'être rejeté par Dieu, puisque la norme était celle des pharisiens, inatteignable pour le plus grand nombre, et réservée à une élite, apparemment. Forcément, la barre était haute, trop haute. Il est là devant Dieu avec humilité, n'osant même pas lever les yeux au ciel, précise le texte.
Et Dieu dans tout ça, parce qu'il est tout de même aussi mentionné dans cette parabole.
Alors, Jésus nous explique par cette parabole que Dieu nous voit. Jésus nous le présente comme un Dieu qui s'arrête pour écouter nos prières et voir avec quelle attitude de cœur nous prions. Puis, à la fin de la parabole, Dieu juge l'un et l'autre comme il nous jugera aussi nous-mêmes. Enfin, il donne non un avis mais un verdict. L'homme juste à ses yeux n'est pas celui qui a une vie religieuse presque sans reproche, mais le pécheur qui a honte et qui demande pardon et qui implore sa miséricorde.
C'est à retenir, Jean-Didier. Bernard, je crois que vous souhaitiez partager une histoire qui illustre notre propos avant de conclure.
Oui, c'est une histoire que j'aime bien, celle de Simon, un clochard en Angleterre au début des années 1900. Cette histoire est introduite ainsi. Dieu se révèle, comme il l'entend, au cœur simple qui le cherche, quel qu'ignorant qu'il soit. Ce petit récit, pleinement authentique, en donne une nouvelle preuve. Je vous propose de voir ça à quatre voix. On se lance ?
Très bien. Un pasteur anglais disait un soir assez soucieux au concierge de son église.
Je suis assez tracassé par le fait que, chaque jour à midi, depuis des semaines, un pauvre vieux aux habits râpés entre dans l'église. Je peux le voir de la fenêtre du presbytère. Il va vers le chœur, n'y reste que quelques minutes, puis il repart. Cela me semble mystérieux et je m'inquiète. Nous avons des choses de valeur dans l'église. J'aimerais que vous puissiez le questionner.
Le lendemain et les jours suivants, le concierge vérifia et trouva en effet ce pauvre visiteur. Sur le coup de midi, il entrait pour un court moment, puis sortait sans hâte. Il l'accosta enfin.
« Dites donc, l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi à l'église ?»«
Je vais prier. »«
Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous allez seulement jusqu'à l'autel, et puis vous repartez. Qu'est-ce que ça signifie ?»
C'est exact, mais voyez-vous, moi je ne sais pas faire une longue prière. Pourtant, je viens chaque jour à midi et je lui dis tout simplement « Jésus, c'est Simon ». Puis j'attends une minute et je m'en retourne. C'est une petite prière, mais je crois et je réalise qu'il m'entend.
Peu après, le pauvre vieux Simon fut renversé par un camion. On le transporta à l'hôpital où il dut rester pendant que se guérissait sa jambe cassée. La salle où il était soigné comportait une vingtaine de lits et donnait depuis longtemps beaucoup de peine à l'infirmière qu'il avait en charge. Plusieurs malades étaient grincheux et irrités, d'autres murmuraient du matin au soir. Tout effort en vue d'améliorer un tel état d'esprit était vain. Pourtant, au bout de peu de temps, les choses changèrent. Les murmures furent moins amers puis cédèrent la place au contentement. L'infirmière, entendant un jour un joyeux éclat de rire, demanda «
Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Vous êtes maintenant des malades pleins de bonne humeur. Où s'en sont allées vos plaintes et vos gémissements qui me fatiguaient tant ?
Oh, c'est le vieux Simon. Il est toujours si heureux, sans jamais se plaindre. Pourtant, nous savons qu'il souffre beaucoup. Ah, il nous fait honte. »
L'infirmière se dirige vers le lit de Simon.
« Alors, vous avez fait ici du bon travail ? Vous avez fait envie à tous, puisque, dit-on, vous êtes toujours heureux. »
Mais comment ne le serais-je pas ? C'est grâce à mon visiteur. Il me rend heureux un jour après l'autre. »
Votre visiteur ? Mais quand donc vient-il ?
Tous les jours à midi. Il se tient là, au pied de mon lit, je le vois. Et il me dit, Simon, c'est Jésus.
Elle est bien sympa, cette histoire.
Oui, elle est sympa, mais elle est surtout vraie. Et ouvre la porte de l'éternité à tout le monde. Je disais tout à l'heure que nous, les hommes, nous regardions à ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Et ce récit en est une très belle illustration.
Avec ce récit, notre émission touche à sa fin. Daniel, pouvez-vous conclure par quelques versets ?
Oui, vous pourrez lire dans le psaume 34. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauve de tout ce qui l'angoisse. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui.
Merci Daniel, merci à vous trois. Si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que le Seigneur n'est pas intéressé par notre faire-valoir de pratiques religieuses. Et qu'au contraire, il fait grâce à celui qui se sent pécheur, qui vient vers lui avec humilité. Retrouvez notre émission podcast sur RCF Anjou. Bonne prière et à très bientôt.